Nous sommes le 15 juillet 2024 à Uzès dans le Gard. Et alors que les cigales ont envahi depuis quelques jours déjà l'espace sonore de la ville, la salle de spectacle de l'Ombrière s'est transformée en véritable lieu de création artistique. Une quinzaine de jeunes musiciens et chanteurs venus de toute l'Europe a été réunis pour former le jeune orchestre baroque européen 2024, le Job. Né sous l'impulsion de Margot Blanchard et Sylvain Sartre, ce jeune orchestre est un projet d'insertion professionnelle européen porté par Les Ombres, un ensemble de musique baroque basé à Montpellier, et Les Nuits Musicales d'Uzès. Pendant ces 5 jours de résidence à l'Ombrière, les jeunes artistes du Job ont préparé un opéra baroque du compositeur anglais John Blow, Vénus et Adonis, dont la représentation a eu lieu le samedi 20 juillet dernier. Radio Fuse était présente pour capter ces moments de création. Nous avons suivi les musiciens au plus près, jusque dans les moments d'intimité, avec l'idée de saisir ce qui se joue dans ces instants de préparation. Vous l'entendrez pendant plusieurs jours, on répète, oui, mais surtout on cherche, on discute, on essaye, on tente, on crée. Nous vous proposons un voyage sonore au sein d'un jeune orchestre talentueux dont la cohésion et le propos artistique s'est affiné au fil des jours. Une immersion au cœur d'une résidence artistique.
Je suis Margot Blanchard, je suis violiste et co-directrice artistique de l'ensemble Les Ombres. Et c'est avec Les Ombres qu'on a été à l'initiative du jeune orchestre baroque européen. Le point de départ du Job, c'est vraiment l'envie d'aller à la rencontre des jeunes en voie de professionnalisation et de travailler avec eux en détail dans un temps privilégié. C'est une occasion encore pour eux de travailler sur un temps long, mais dans des conditions professionnelles.
Vous faites partie du programme des Nuits Musicales. Quel est votre lien avec les Nuits Musicales ?
Oui, on a commencé à collaborer avec Eric Desnoux, qui est le directeur artistique des Nuits Musicales, il y a quelques années déjà, à travers une résidence où nous donnions des concerts au Temple et à travers la ville d'Uzès. Puis nous avons eu l'opportunité de monter un stage, une petite académie de musique ancienne, que nous avons donné plusieurs éditions. Et le Covid a malheureusement annulé plusieurs fois notre stage. C'est là qu'on s'est posé la question de changer la formule et de proposer ce jeune orchestre baroque européen. Donc notre rôle, c'est vraiment... Déjà d'apporter cet éclairage sur la jeunesse au sein du festival et d'être aussi présent sur une semaine entière, ce qui n'est pas forcément le cas des autres artistes qui viennent se présenter ponctuellement.
Ouais, c'est
aussi une autre
chance,
atmosphère et une autre émulation au sein du festival.
Eh bien, je m'appelle Baptiste Guittet, donc je suis claveciniste. Et donc là, on va échanger une corde du clavecin qui a cassé au moment de l'accorder.
Tout à fait.
J'imagine que c'est pas simple d'accorder un clavecin.
Et c'est un clavecin qui a été transporté il y a pas très longtemps, qui a fait pas mal de routes, qui a dû avoir chaud, puis froid, ouais. puis chaud. Donc là, effectivement, il se montre un peu résistant. Il n'a pas très envie de s'acclimater tout de suite.
Bon, il reste encore un peu de temps pour l'acclimater ou...
Oui. Ça va aller, tout va bien se passer.
Donc là, c'était Brice Sailly qu'on entendait. Brice Sailly qui est chef de chant dans le projet Job, claveciniste au départ, donc c'est pour ça qu'il donne un petit coup de main à Baptiste pour l'accordage et le changement de corde de ce clavecin.
Voilà.
Bravo. Donc il y a combien de cordes dans ce clavecin?
Il y en a bien 150, entre 150 et 200.
180, je pense plutôt.
Ouais.
Quelque chose comme ça.
Je sais pas, j'ai pas compté.
Et ça arrive souvent qu'une corde de clavecin casse?
Non.
Non, c'est rare.
T'as une technique miracle pour sortir les chevilles ou quoi?
Il y a une corde qui a cassé là?
Ouais.
Parce que tu l'as regardé, c'est pour ça, non?
Je pense que c'est ça. Ben, celle d'à côté.
J'ai l'impression qu'elles sont susceptibles de vos cordes.
Absolument.
Comment est-ce qu'on choisit de devenir claveciniste? C'est à quel moment que ça arrive dans votre apprentissage musical?
Je pense que tout le monde a des parcours différents. Moi, j'ai rencontré ce clavecin enfant. Ouais. Ah, je sais pas, pour Baptiste...
Moi, j'ai commencé par le piano d'abord.
Ça doit être courant, j'imagine, d'abord le piano, plus tard le clavecin ?
Bah, en France, pas tellement. Il y a énormément de classes de clavecin, donc on peut vraiment commencer avec le clavecin.
D'accord. Est-ce que c'est facile d'avoir un clavecin chez soi ? Travailler son instrument ?
C'est pas difficile d'avoir un clavecin chez soi.
D'accord.
En tout cas, ça prend de la place.
Ça prend de la place, voilà. C'est cher.
Et c'est cher.
C'est vrai.
Donc ce choix de l'instrument du clavecin, c'est avant tout un amour pour l'instrument ou c'est vraiment lié à un répertoire musical ?
Bah, je pense que quand on est enfant, c'est... En général, les enfants, quand ils choisissent un instrument, c'est d'abord un rapport assez immédiat au timbre, au son de l'instrument qui nous parle. Voilà, c'est ça. Après, quand on a déjà une expérience musicale, quand on fait le choix de s'orienter vers la pratique du clavecin, on sait de manière un peu plus consciente qu'on s'oriente aussi vers la musique des 17e et 18e siècles.
Le clavecin est en état de fonctionnement. Il ne reste plus qu'à le transporter dans la salle de répétition dans laquelle se trouvent les chanteurs pour une nouvelle session de travail.
They bleed, your spears, adore is thou shalt be adored.
That's very good. And they bleed, can we do it a bit shorter, the bleed? It sounds a bit too melodic.
Bleed your spears.
Yeah.
And the second your spears. So your spears.
Et là, on entend Sophie Tocotaven, qui est professeure de diction lyrique, aux côtés de Brice Essailly. Elle est là pour guider, pour harmoniser les accents, les intonations et les prononciations des chanteurs, puisqu'il s'agit d'un texte du XVIIe siècle, en anglais évidemment.
Parce que l'idée, c'est de se moquer de la Colchienne, non ?
Je crois.
Oui. Ouais. Éventuellement... It could be, but she is old. Oh.
Old.
Yeah, that is actually.
Old.
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 En tant que claveciniste, je travaille très souvent en tant que chef de chant. Chef de chant, c'est-à-dire que mon métier, c'est de préparer les chanteurs, en général avant l'arrivée du chef, afin qu'ils construisent leur rôle tant musicalement que théâtralement.
Et dans le même temps, dans la pièce voisine, c'est l'orchestre qui répète avec son chef, Sylvain Sartre.
Voilà. Encore, 10. First beat. Non.
Tu imparo do MPT.
Là, on entend Félix, le flûtiste, et Véronica, la violoniste, qui essaient de se mettre d'accord sur leur partie respective avec le chef, Sylvain.
Simple. Fa, do, mi, re. We don't do pa, da, di, re. I think it's too much activity.
Je m'appelle Sylvain Sartre, donc je suis flûtiste, je suis chef d'orchestre. Chaque année, on décide avec Margot d'une œuvre qu'on va aborder avec la nouvelle équipe qu'on va recruter au sein des conservatoires. Donc on recrute dans 5 ou 6 conservatoires en Europe. Donc on va à Bruxelles, à Barcelone, à Paris, à Lyon. Et en fonction du projet artistique, on recrute certains musiciens, certains instrumentistes, certains chanteurs, certaines voix, certains instruments. Ça change chaque année. Et au niveau de l'œuvre, on essaie toujours de voir un aspect exigeant artistiquement, c'est-à-dire d'aller chercher des œuvres qui ne sont pas forcément tout le temps jouées.
en même temps de voir un matériau musical qui soit aussi souple, pas trop exigeant, pour justement pouvoir avoir assez de marge de progression avec les étudiants pour arriver au final à un résultat presque professionnel, voire professionnel. Et donc cette année, on a choisi un opéra anglais, le premier opéra anglais en fait, qui a été composé par John Blow. Et c'est un opéra très intéressant parce que déjà il mêle plusieurs styles, le style baroque italien et le style baroque français, avec évidemment la poésie de la musique anglaise de cette époque. Et puis c'est un petit format, c'est-à-dire que c'est vraiment un opéra miniature de 50 minutes. Et ce qui est très agréable, voilà, c'est que c'est en fait trois actes, un prologue, mais des petits actes hein, qui durent 10 minutes, avec des scènes très ciselées, donc dans lesquelles il faut vraiment qu'on caractérise les émotions, les personnages, parce que les scènes passent très vite, les émotions aussi. Donc pédagogiquement, c'est vraiment très intéressant d'avoir ces petits tableaux. Pour nous, c'est vraiment génial parce que ça permet de travailler tous les registres voilà, d'émotions avec les chanteurs et les instrumentistes.
Et alors, quand on dirige un orchestre d'étudiants encore, est-ce qu'il y a des difficultés particulières par rapport à des musiciens plus avancés, plus professionnels? Sur quoi il faut mettre l'accent quand on travaille avec des jeunes musiciens comme ça?
Alors déjà, ça se passe au moment des auditions et des recrutements, d'arriver à percevoir comment vont matcher les sons ensemble. Parce que quand on fait des auditions dans des lieux très différents, on n'apprend pas le violon à Bruxelles comme on l'apprend à Bâle. C'est voilà. Donc il faut arriver à anticiper comment musicalement ça va matcher. Ensuite, il y a l'aspect humain, c'est très important. Quand on fait les auditions, il y a toujours un moment dans l'audition, ils jouent, puis après on travaille un petit peu avec eux pour voir comment ils réagissent, s'ils réagissent, s'ils réagissent pas. Et ensuite, sur place, de faire que la cohésion humaine déjà se passe, donc, et là on est vraiment dans la gestion d'un groupe humain, hein. C'est comme une équipe de foot, hein. On ne va pas prendre les meilleurs joueurs pour faire la meilleure équipe, on va prendre les joueurs qui vont, on pense, s'entendre le mieux et jouer collectif, si je veux faire continuer ma métaphore. Donc c'est exactement pareil, et donc on doit trouver une manière de jouer ensemble, et donc ça passe par un travail d'écoute ensemble. Il faut vraiment qu'on leur permette de s'écouter entre eux, de créer un son ensemble, c'est très important. Mais par rapport, pour reprendre votre question, par rapport à des musiciens professionnels, ils n'ont pas les mêmes réflexes. Ils en ont un peu parfois, parfois pas du tout. Donc il faut qu'on leur apprenne à créer des réflexes, par exemple par rapport à un chanteur qui va ralentir un endroit qu'on n'avait pas prévu, par rapport à un accord de l'orchestre qui va sonner peut-être un peu plus faux. Donc il faut avoir le réflexe de l'écoute au moment du live, de changer ça, d'être réactif. Et donc on essaie de leur apporter ça. On essaie de leur apporter aussi comment on se comporte sur scène. C'est pas juste on arrive, on joue, il y a un public devant. Même quand on est instrumentiste et qu'on n'a pas de rôle à jouer, de rôle, j'entends, de protagoniste, on a un rôle à jouer parce qu'on nous regarde, donc si on se gratte le nez, ça se voit. Donc en fait, il y a aussi la présence scénique, comment être sur scène, comment saluer, comment sortir, comment rentrer. Enfin, il y a toutes ces dimensions en une semaine.
Il faut qu'on ait ta voyelle.
Ok, can we take 32?
Essaye de me faire le plus fort possible.
The crowding joys it shall press.
Encore une fois.
The crowding joys it shall press and run you smiling cupid play. The crowding joys it shall press.
Et alors là, fais pas piano, fais une autre couleur. Okay. Dynamique la première fois, et la deuxième fois, je sais pas, trouvons un truc cristallin, tu vois.
The crowding joys it shall press, and run you smiling cupids play. The crowding joys it shall press, and run you smiling cupids play.
C'est bien ça, le côté un peu cristallin
que t'as fait. Est-ce qu'on peut refaire le récit d'Adonis, When Shall I Taste?
Ouais.
Je vais prendre ta place un petit moment.
Bar 5.
Bar 5, yeah.
Peut-être
que
tu veux faire une fois
le mix
avec
Felix. Can we the continuo loop think a bit earlier the second F? It will help us to go.
Oui, oui, merci, merci.
Il y a un peu de. Dis-moi, quand est-ce qu'on va le refaire?
Mais sinon, c'est Venus.
Venus. When shall I taste of delight, and on thy bosom lie? Let's seek the shade that's covered of this glow.
Alors Sylvain, comme on l'entend dans cet extrait, vous êtes à trois, donc Brice Sailly, le chef de chant, Margot Blanchard, la directrice artistique, et vous-même Sylvain Sartre, donc à la direction musicale. Vous êtes à trois à chercher des directions, à intervenir, à proposer des pistes. Est-ce que c'est facile de travailler à trois ?
Non, c'est toujours plus facile d'être tout seul. Mais c'est toujours plus riche d'être plusieurs. Donc en fait, c'est toujours là. Il faut qu'on arrive à trouver la ligne qui fasse que tout le monde puisse s'exprimer. C'est une question d'ego. C'est une question. Avec Margot, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble, qu'on partage la direction artistique des Ombres. Donc en fait, quand on arrive à faire consensus, et c'est toujours l'objectif, le résultat est beaucoup plus riche. Donc en fait, il y a une question de travail en amont. Quand on est plusieurs, on doit travailler beaucoup plus en amont pour se mettre d'accord en amont sur les grandes lignes du projet artistique. Une fois qu'on a le squelette, disons, après dans le travail, il faut écouter la proposition de l'autre, et souvent c'est toujours intéressant, c'est plus riche. Donc c'est une habitude en fait, vraiment.
Même question à Margot Blanchard.
Alors on peut fonctionner comme ça quand on se connaît très bien.
Très bien, ouais.
Voilà. Donc, et quand il y a des connivences et des points, des valeurs extrêmement communes au niveau du style. C'est très riche de collaborer, d'avoir un travail collaboratif. Et je pense que pour eux, on a été quand même plutôt assez clair sur la direction qu'on voulait prendre. Je ne les ai pas sentis perdus, donc ça veut dire que c'est un peu réussi. On tient déjà à favoriser la pensée multiple. C'est même ça que j'encourage chez eux, à être eux-mêmes des forces de proposition et des stimuli, des moteurs pour chacun de leurs collègues. D'ailleurs, c'est pour ça que je les ai d'abord fait chanter individuellement, puis à deux, puis à trois. Et pareil, j'ai retiré des instruments du continuo, puis ensuite je les ai remis pour qu'ils écoutent individuellement leur timbre et qu'ils arrivent à se rencontrer.
Ouais.
Parce qu'ils sont tellement concentrés, et c'est normal, sur leur technique, sur le texte, sur le sens de ce qu'ils sont en train de dire, que parfois on oublie juste d'ouvrir les oreilles et d'être avec les autres.
Il est l'heure de la pause. Profitons-en pour aller interviewer ces jeunes musiciens et leur demander ce qu'ils pensent de leur résidence artistique. On écoute Brice, Marguerite, Olivia et Baptiste.
Est-ce que c'est la première expérience comme ça que vous avez en résidence pour créer un concert en une semaine, ou ça vous arrive souvent en tant que musicien?
Le principe du stage sur une semaine, c'est assez répandu dans le milieu de la musique. C'est un truc qu'on fait beaucoup. Ça nous permet de rencontrer d'autres musiciens, de rencontrer des chefs, d'apprivoiser un répertoire et de faire ça dans des conditions pédagogiques, donc un peu plus douces qu'en production professionnelle. On a le droit à l'erreur, quoi.
Et c'est très formateur.
C'est très formateur. C'est des labos, enfin c'est des endroits où on peut vraiment expérimenter, essayer, voir ce qui nous va, ce qui nous va pas.
Alors ce qui est assez surprenant, moi je suis pas du tout spécialiste de la musique baroque, c'est de voir les possibilités d'interprétation de la partition. C'est-à-dire que je vous vois tous chercher, je vous entends supprimer des mesures, je vous entends changer de rythme quelquefois. Est-ce que c'est une pratique courante pour la musique ancienne ?
Oui, et ce qui est très intéressant dans sur cette semaine-là, c'est qu'on vient de pays et d'écoles différentes. Donc on voit bien qu'on a aussi des manières, chacune, des manières différentes de jouer. Et le but de cette semaine, ce serait de vraiment réussir à réunir le son, les phrasés, arriver à jouer bien ensemble.
J'ai discuté avec votre chef d'orchestre, il me disait que la partition était pratiquement pas orchestrée, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissiez quel instrument allait jouer quelle partie.
C'est ça. Alors il y a quelques passages où il y a vraiment noté précisément pour les flûtes à bec, mais vraiment c'est à quelques endroits. Et sinon c'est, alors je sais pas si c'est spécifié, instrument de dessus, violon, enfin voilà, mais généralement après on instrumente, et nous avec les flûtes du coup on a des flûtes un peu de toutes les tailles, et qui peuvent jouer un peu différentes tessitures et différentes voix, et du coup on essaie de chercher des couleurs différentes.
Ce qui veut dire qu'avant de venir lundi, il a travaillé pour la première fois. Vous avez dû peut-être un petit peu travailler toutes les parties, enfin regarder toutes les parties, ou...
Oui, bah alors on a regardé, et en même temps on savait pas à l'avance qu'on allait, enfin ouais, quelle flûte on allait utiliser pour tel morceau, etc. Parce qu'il fallait aussi qu'on se rencontre avec Félix, le collègue flûtiste, et pour harmoniser ça, et puis pour essayer d'avoir un timbre un peu commun aussi. Ça c'était intéressant aussi, de faire le choix.
Et toi, au clavecin, est-ce que tu as un rôle particulier dans l'orchestre ?
Ouais, le rôle du clavecin dans l'orchestre baroque, c'est plutôt un rôle de percussion. On peut jouer des hauteurs comme les autres instruments, mais ce qui ressort, c'est vraiment l'aspect rythmique. C'est un peu un moyen aussi d'insuffler l'énergie qui correspond à ce qu'on est en train de jouer.
Et là, c'est pareil, il y a des indications sur la partition, mais vous permettez des...
En fait, il n'y a pas grand-chose sur la partition.
Donc c'est vous qui écrivez sur vos partitions, je vous vois tous noter, prendre beaucoup de notes sur les partitions.
Exactement. Ouais. Au clavecin, on joue la ligne de la basse et on fait une sorte de réalisation qui est une réduction un peu de toutes les autres voix au-dessus. Il y a une part d'improvisation dans le sens où tout n'est pas écrit, il n'y a que la ligne de basse qui est écrite.
Et à chaque fois, tu es censé faire la même chose. Une fois que le chef d'orchestre a dit on fait comme ça, il faut que tu te souviennes de tout ça et que tu fasses.
Alors on se souvient
sur
du
concert, tu dois faire la même chose que tu as fait à la répétition qui marchait bien, j'imagine.
On se souvient du caractère, on se souvient de l'énergie qu'on veut insuffler, de la nuance, de tout ça. Et après, par contre, ça peut tout à fait changer. C'est pas du tout fixé comme réalisation. Okay. C'est vraiment.
C'est ce qui distingue cette musique improvisée
en temps réel, en fait.
La musique classique.
Oui, exactement.
Et c'est sympa quand on est étudiant, entre guillemets, d'être à USES, de passer quelques jours de travail dans une ambiance un peu estivale. Et,
C'est vraiment l'avantage de ce genre de stage, c'est qu'on arrive toujours à faire ça dans des endroits assez beaux, etc. Enfin, c'est pour ça aussi que ça rend des trucs sympas, c'est que là, on se retrouve quand même dans une super ville très jolie et on passe une semaine très sympa à faire de la musique très jolie avec des gens très cool dans un endroit très beau.
Il est temps de les écouter maintenant. Voici la dernière scène de Vénus et Adonis captée pendant la générale qui a eu lieu donc la veille du concert le vendredi 19 juillet. Nous venons d'entendre le dernier acte de Vénus et Adonis donné à la générale par le jeune orchestre baroque européen. Parmi les applaudissements, il y avait ceux de Éric Desnou, le directeur des nuits musicales d'Uzès, que nous allons interroger pour avoir son sentiment sur ce concert.
Eh bien, moi, je suis très ému, toujours, parce que d'abord, je trouve que c'est d'une grande beauté. C'est servi par des jeunes artistes. Voilà, le projet, c'est un projet d'insertion professionnelle. Et là, je trouve qu'on est totalement inséré. C'est déjà la carrière, c'est le niveau professionnel que l'on attend sur les scènes internationales. Et ça me fait vraiment très plaisir. La qualité de la ligne vocale de chaque chanteur, la précision des instrumentistes, le son d'ensemble qu'ils ont su trouver, parce que finalement, ils travaillent depuis 5 jours ensemble, ils ne se connaissaient pas avant, et là, ils sont arrivés à créer un esprit de troupe. Et ça, c'est merveilleux, c'est le plus beau cadeau qu'ils pouvaient nous faire. Je veux dire qu'il y a aussi un orfèvre en la matière, hein, qui est Sylvain Sartre, qui est un musicien de haut niveau, un chef, et qui maîtrise ce répertoire, ce langage de la musique baroque parfaitement, et qui sait actionner toutes les ficelles pour trouver ce son d'ensemble et créer cet esprit de troupe qui est si important autour de cette passion qui est la musique, le spectacle. Et c'est merveilleux, je suis certain que les auditeurs demain seront enchantés par cette représentation.
Demandons à Brice Sailly ce qu'il a pensé de cette semaine de travail.
Moi je suis très content, je suis ému aussi de voir le chemin parcouru en quelques jours, de voir que tous ces musiciens qui viennent des quatre coins de l'Europe arrivent à faire équipe. Et je suis très impatient de les entendre demain soir pour la représentation.
Dans ce reportage, vous avez pu entendre l'orchestre Job 2024 avec à la direction musicale Sylvain Sartre, à la direction artistique Margot Blanchard et Brice Sailly, chef de chant. Les chanteurs de l'orchestre sont Noël Drost, Félix Merle, Arnaud Gluck, Adèle Hubert, Alexandre Jamard, Brice Clavier-Homberg, Lorenzo Tosi, les instrumentistes Veronica Zimnok, Julia Hernandez-Sanchez, Marguerite Dehors, Félix Gucci, Olivia Petrissac, Alexandra Maglevanaya, Iris Tokabens, Baptiste Guité et Jasper Bartling-Lipina. Je remercie particulièrement Thomas Ridard, le régisseur général de l'Ombrière, pour son accueil et son aide, ainsi que toute l'équipe des Nuits Musicales d'Uzès. Ce reportage était réalisé par Jean-Christophe Quilez pour Radio Fuse. Vous pouvez réécouter ce programme en podcast sur radiofuse.fr.